France Inter, Léa Salamé, Ali Badou, le 7-9.
Mercredi 22 janvier 2020, bonjour à tous, bon réveil et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, des contrôles renforcés pour tenter de limiter la propagation d'un nouveau virus apparu en Chine le mois dernier. Plusieurs pays sont désormais touchés, dont les États-Unis. En France, les autorités de santé se veulent rassurantes. Les autres titres, Agnès.
Le rose est-il soluble dans le vert ou quand les écologistes prennent le pas sur les socialistes dans la campagne pour les municipales? Les nouveautés de Parcoursup, la plateforme ouvre aujourd'hui. La première journée hier du procès en destitution de Donald Trump, échange vif entre républicains et démocrates. Et puis l'étonnant parcours d'un enfant des rues de Naples dont les sculptures sont à découvrir au Petit Palais.
Invité de France Inter ce matin à 7h50 avec Léa Salamé. Bonjour Léa.
Salut Ali. Déterminée et forte pour les uns, clivante et autoritaire pour les autres. En tout cas, elle fait la course en tête dans les sondages à 2 mois des municipales face à une Macronie divisée. La maire de Paris, candidate à sa réélection, Anne Hidalgo, sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, le grand entretien de la matinale avec la directrice générale de l'ONG Oxfam France, Cécile Duflot. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter.
France Inter.
9 morts, plus de 400 cas déclarés. Le bilan du virus qui frappe la Chine depuis la fin du mois de décembre s'alourdit et les autorités chinoises mettent en garde ce matin contre une mutation de ce virus qui pourrait engendrer une propagation plus rapide encore. Ce virus, donc, qui affecte les voies respiratoires, est apparu dans la ville de Wuhan, au centre du pays. Les médecins ignorent encore l'origine et sa période d'incubation, d'où les mesures de précaution annoncées par Pékin ce matin. Correspondance de Dominique André.
Li Bin, le vice-ministre chinois de la Santé, rejette les projections des experts étrangers. Le nombre des personnes infectées actuellement est de 440 et non plus d'un millier. Monsieur Li affirme que la Chine est transparente sur l'épidémie qui inquiète alors que des centaines de millions de Chinois voyagent cette semaine pour le nouvel an lunaire. Ventilation et désinfection dans les aéroports, les gares et les centres commerciaux sont les mesures annoncées aujourd'hui. Li Bin craint une propagation et même une mutation du virus.
Les experts confirment que l'épidémie a été découverte à Wuhan et confirment la transmission entre humains. Des travailleurs médicaux ont été infectés. Une transmission limitée existe aussi parmi les habitants d'une même résidence. Ce virus est transmis principalement par le système respiratoire. Le virus pourrait muter et se propager plus facilement avec un risque de propagation durable plus large. À l'occasion de la fête du Nouvel An, la population bouge et cela risque d'aggraver la diffusion du virus. On ne peut pas relâcher notre vigilance, il faut vraiment faire attention.
Il faut adopter la culture du masque pour se protéger et protéger les autres, a lancé M. Bin, qui recommande de ne pas aller à Wuhan, le foyer de l'infection. Pékin, Dominique André, France Inter.
Le virus est donc désormais présent à Shanghai et Pékin, mais aussi au Japon, en Corée du Sud, en Thaïlande, à Taïwan, à Macao et aux États-Unis, où un homme de retour du Wuhan a été hospitalisé à Seattle. Désormais d'ailleurs, tous les passagers provenant de Wuhan par des vols directs ou indirects devront arriver aux États-Unis par 5 aéroports, où les autorités sanitaires mettent en place des contrôles systématiques avec notamment une prise de la température par un thermomètre sans contact. La Corée du Nord annonce, elle, ce matin, fermer le pays aux touristes. En France, les autorités se veulent rassurantes, pas de cas avérés et un système de détection qui fonctionne, comme l'a expliqué à Rémi Brancato, Jérôme Salomon, il est le directeur général de la Santé.
Il n'y a eu qu'une seule suspicion de cas. Ce cas a été formellement exclu, mais il a parfaitement montré la maîtrise du système de santé, puisque ce patient de retour de Wuhan avait eu l'information qu'il y avait un risque, qu'il a contacté son médecin traitant, qu'il ne s'est pas présenté aux urgences, qu'il a appelé le centre 15 et que donc il a été très rapidement isolé et puis ensuite pris en charge par un établissement de santé de référence. Les tests qui ont été pratiqués par l'Institut Pasteur, le centre national de référence des virus respiratoires, ont exclu aujourd'hui ce cas. Et il faut passer un message rassurant qui est que le système de santé français est prêt face à ce risque épidémique, mais surtout les mesures barrières que l'on rappelle pour la grippe, le fait de se laver les mains, le fait de porter un masque lorsqu'on est symptomatique, casse toute transmission et donc évite le risque épidémique.
Enfin, l'Organisation mondiale de la santé se réunit ce soir pour déterminer s'il convient de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale, procédure déjà utilisée lors des épidémies dues à la fièvre porcine, au virus Zika ou à la fièvre Ebola.
France Inter, 7h05, la suite du journal. Et en France, la campagne profil bas de la gauche pour les municipales, Agnès.
Olivier Faure a présenté hier soir les vœux d'un parti encore en convalescence. Si les candidates socialistes, Martine Aubry à Lille, Anne Hidalgo, Hidalgo à Paris ou Johanna Roland à Nantes sont à mesure de s'imposer. La tendance de cette édition 2020 est plutôt verte, avec des candidats estompillés Europe Écologie Les Verts qui ont du vent dans les voiles, comme si Yael Gauz, le leadership, avait changé de camp.
2008 est un souvenir heureux pour les socialistes. La vague rose, 2/3 des villes de plus de 100 000 habitants. Avant la rechute, 1/4 des grandes mairies en 2014 et le double déclin aux élections présidentielles et européennes. Quand on est à 6%, reconnaît la présidente du groupe à l'Assemblée, Valérie Rabault, on est bien obligé de changer de stratégie.
C'est une démarche nouvelle, c'est pas une démarche facile. Être hégémonique, c'est jamais bon. Puis de toute façon, là aujourd'hui, on va pas se mentir, le PS en a absolument pas les moyens. Chacun fait un pas pour qu'on puisse réussir l'union.
L'union derrière qui ? Derrière le panache vert des écolos qui, fort de leur score aux européennes, estiment qu'ils n'ont plus à être les supplétifs d'une vieille gauche plurielle. À Bordeaux, Besançon ou Perpignan, le PS se range derrière ELV, une inversion des hiérarchies saluée par la porte-parole écolo Sandra Regol.
Aujourd'hui, nous partons sur des rassemblements écologistes et le seul endroit où ce n'est pas le cas, c'est Clermont-Ferrand où nous partons derrière un socialiste, mais en dehors de ça, toutes nos listes sont des listes écologistes.
Mais l'union ne fonctionne pas partout. À Marseille, Montpellier ou Villeurbanne, ELV part en solo, péché d'orgueil, regrette un dirigeant socialiste, qui compte sur de nouvelles victoires à Paris, Lille, Nantes ou Rennes pour rééquilibrer les choses. Au soir du 22 mars, Olivier Faure lancera un appel à l'union pour 2022, quitte à ce que le PS se fonde dans une grande fédération qui inclurait les écolos, un vœu encore loin d'être exaucé.
Et s'il y a bien une ville où les enjeux écologiques ont toute leur importance, c'est Rouen, après la catastrophe Lubrizol, reportage dans le journal de 8h. Les coupures d'électricité sauvage, c'est désormais le moyen choisi pour lutter contre la réforme des retraites. 35 000 foyers privés de courant hier matin au sud de Paris. Et cela va continuer, affirme la CGT Énergie, malgré les plaintes déposées par la direction d'Enedis. La plus importante usine hydroélectrique de France installée à Grand-Maison en Isère est également à l'arrêt depuis hier. Et la fédération CGT des ports et docks a prévu une nouvelle opération de blocage jusqu'à vendredi dans les 7 grands ports français. Ils n'ont pas encore passé le bac mais doivent déjà s'inscrire sur Parcoursup. La plateforme d'inscription à l'enseignement supérieur s'ouvre aujourd'hui pour les lycéens de terminale et les étudiants en réorientation. 10 vœux à formuler donc jusqu'au 12 mars. Le principe de la procédure ne change pas mais il y a quelques nouveautés. 600 nouvelles formations intègrent la plateforme, notamment les licences sélectives de l'université Cité Paris-Dauphine et les 10 Sciences Po et IEP de province. L'autre changement, Sonia Princé, concerne les vœux.
Les candidats peuvent formuler jusqu'à 10 vœux sans les classer. Pour chaque vœu, ils recevront une réponse à partir du 19 mai, oui, non ou en attente. Et c'est à ce moment-là qu'ils pourront activer le répondeur automatique. Il s'agit d'un dispositif mis en place l'an dernier déjà. Le principe est simple. Si les candidats ont encore des vœux en attente, ils peuvent les classer par ordre de préférence. Vœux 1, 2, 3 par exemple. En cas de réponse favorable au vœu 2, le vœu 3 tombe automatiquement et le vœu 1 est maintenu en attente. Le candidat n'a rien à faire. L'an dernier, les élèves pouvaient activer ce mécanisme fin juin après les épreuves du bac. Cette année, ils pourront le faire dès les premières réponses, le 19 mai. L'objectif est de gagner en sérénité, a expliqué la ministre Frédérique Vidal. Les candidats n'auront plus à se connecter chaque jour pour vérifier s'ils ont une proposition d'admission. Le répondeur se chargera de valider un choix automatiquement. En période de révision pour le bac, ce sera du stress en moins. Attention cependant, il ne sera pas possible de modifier cet ordre en cours de route. Il faut donc être très sûr de ses préférences.
Ne dites pas que la taxe GAFA est retirée, elle est suspendue. En marge du forum de Davos, Français et Américains continuent de discuter pour tenter de trouver un compromis. La France a pourtant bien voté au Parlement en juillet dernier cette taxe sur les activités numériques des géants que sont entre autres Google, Apple et Facebook. Mais face aux menaces de rétorsion de Washington, Bercy a décidé de temporiser. Davos où Donald Trump et Greta Thunberg se sont répondu par discours interposé, le président américain fustigeant les prophètes de malheur du climat, quand la jeune Suédoise a répété qu'il était temps de paniquer face à l'état de la planète. Donald Trump, qui était donc hier en Suisse et n'a pas assisté au premier jour de son procès en destitution devant le Sénat américain, débat suivi par Grégory Phillips, correspondant de France Inter à Washington.
À 13h17, heure de Washington, le juge John Roberts, le président de la Cour suprême, demande au sergent en armes du Sénat d'annoncer l'ouverture de ce procès en réclamant à tous un silence absolu, comme le prévoit la Constitution. Puis pendant de longues heures, devant les 100 sénateurs, impassibles, les 7 représentants démocrates qui font office de procureurs et l'équipe d'avocats qui défend le président Bataille. Principale question, faut-il convoquer des témoins, comme par exemple le chef de cabinet du président, Mick Mulvaney? Les sénateurs républicains aligné sur la position de la Maison-Blanche, vote contre, ce qui fait dire ceci au représentant démocrate de New York, Hakeem Jeffries.
Donald Trump joue une obstruction totale. À côté, Richard Nixon était un enfant de cœur.
Comme pour une émission télévisée, les procureurs démocrates diffusent des extraits vidéo d'interviews ou de conférences de presse de Trump pour appuyer leurs propos. L'équipe de défense du président réplique et rend coup pour coup, comme ici Jesse Culot, son avocat personnel.
Pourquoi on est ici? Parce que depuis le premier jour du président à la Maison-Blanche, vous voulez le destituer.
Ce n'est qu'en milieu de semaine prochaine qu'on entrera dans le cœur de ce procès et que les sénateurs devront trancher notamment sur la question de la convocation d'éventuels témoins. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Emmanuel Macron attendu en milieu de journée en Israël où il doit rencontrer successivement Benjamin Netanyahou, Benny Gantz et Mahmoud Abbas avant de commémorer demain le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. La tempête Gloria, les Pyrénées orientales et désormais l'Aude placée en vigilance orange en raison des risques de pluie et d'inondation. Le phénomène devrait durer jusqu'à demain midi et toucher également l'Aveyron. Fort risque d'avalanche dans le massif du Canigou. L'Olympique Lyonnais jouera la finale de la Coupe de la Ligue après sa victoire hier soir face à Lille. Victoire après une séance de tirs au but 4-3. Les Lyonnais connaîtront leur adversaire ce soir après la rencontre entre Reims et le PSG. Enfin, une découverte au Petit Palais, celle d'un sculpteur napolitain dont c'est la première rétrospective hors d'Italie. Et pourtant, Gemito, ce gamin des rues, a révolutionné l'art au milieu du 19e siècle. Portrait signé Isabelle Pasquier.
Gemito, c'est le destin incroyable d'un gamin des rues de Naples. Orphelin, il est adopté par une famille pauvre et il est fasciné par les sculptures des crèches napolitaines. Plus tard, dans des sortes de squats, il sculpte en terre cuite les têtes des gamins qui zonent dans le quartier de Sanita. C'est un choc car sur les visages, il saisit la vie en se débarrassant de tout académisme. On s'arrête devant son petit joueur de cartes avec Christophe Leribaud, le directeur du Petit Palais.
On voit vraiment un gamin des rues comme l'était notre sculpteur et il propose une vision du peuple de Naples très différente de celle qu'avait Carrefour, Rude, les grands sculpteur français. Là, on est vraiment face à la réalité un peu crue. Ces sculptures très étonnantes, en fait, elle a été très bien reçue puisqu'elle a été immédiatement achetée par le nouveau roi d'Italie. Par le réalisme très cru de ces sculptures, vraiment, il tranche sur son temps. On est resté encore sur une tradition un peu romantique, du marbre très lisse, des beaux bronzes bien finis. Et lui, il arrive avec un style totalement différent, une technique un peu brute de décoffrage, absolument fascinante et qui va frapper Degas.
Mais Gemito va sombrer dans la folie. On lui fait des commandes impossibles et il perd à la suite ses deux épouses. Il sera interné et il restera reclus chez lui pendant 20 ans avant de reprendre quand même sa vie de sculpteur. Mais on ne sculptera plus de la même manière après Gemito, l'enfant des rues de Naples.
Exposition à découvrir jusqu'au 26 janvier au Petit Palais. Après, il faudra aller la voir à Naples.
Merci Agnès Soubiran.